Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le roman d'Andrei Kourkov, grand écrivain ukrainien, paru au printemps dernier chez Liana Levy, qui s'intitule Les abeilles grises. Ce roman, qui résonne avec l'actualité tragique que nous connaissons, a été traduit du russe par Paul Lequen. Le froid força Sergueï Sergueïtch à se lever vers 3 heures du matin. Le poêle cheminé, bricolé de ses mains d'après un croquis relevé dans la revue Datcha bien-aimée, avec porte vitrée et 2 plaques de cuisson circulaire, ne dispensait plus aucune chaleur. Les seaux de fer blanc, posés à côté, étaient vides. L'obscurité régnant, il avait plongé la main dans le plus proche, et ses doigts n'avaient rencontré que des miettes de charbon. « D'accord, » grogna-t-il, d'une voix ensommeillée. Il enfila un pantalon, glissa ses pieds nus dans des pantoufles, de grosses bottes de feutre amputées de leurs tiges, jeta une pelisse sur son dos et, empoignant les 2 seaux, sortit de la maison. Il s'arrêta derrière la grange devant le tas de charbon. D'un coup d'œil, il repéra la pelle. Il faisait bien plus clair dehors que dedans. Les morceaux de houille tombèrent en pluie, heurtant le fond des seaux dans un grand fracas. Mais quand une première couche fut formée, le tintamarre s'éteignit et leur chute devint presque silencieuse. Un coup de canon retentit quelque part au loin, puis un autre une 30aine de secondes plus tard, mais comme provenant d'un autre côté. « Quoi, ils dorment pas, ces abrutis, ou c'est-il qu'ils ont décidé de se réchauffer ?» bougonna Sergueïtch mécontent. Il regagna l'obscurité de la maison, alluma une bougie. L'odeur agréable, chaude et mielée lui frappa les narines. Il perçut le discret tic-tac familier et apaisant du réveil matin posé sur l'étroit rebord de fenêtre en bois. Un peu de chaleur subsistait à l'intérieur du poêle. Néanmoins, sans papier ni copeaux de bois, il n'aurait pas été possible d'enflammer le charbon encore glacé après son séjour dehors dans le grand froid. Quand les longues langues bleuâtres des flammes dansèrent enfin derrière la vitre noircie de suie, le maître des lieux ressortit de la maison. Un roulement de lointaines canonnades, à peine audible de l'intérieur, s'entendait à l'est. Mais un autre bruit, plus proche, attira l'attention de Sergueïtch. À l'évidence, une voiture venait de passer dans la rue voisine, de passer et de s'arrêter. Il n'y avait que 2 voies traversant le village, la rue Lénine et la rue Chevtchenko, à quoi s'ajoutait le passage Mitsourine. Lui-même vivait rue Lénine dans une relative solitude. La voiture, par conséquent, avait emprunté la rue Chevtchenko. Il n'y avait là également qu'un seul habitant, Pashka Kmelenko, lui aussi précocement retraité, presque du même âge, ennemi d'enfance depuis la toute première classe de l'école du village. Son potager donnait sur Orlivka, autrement dit, Pashka était d'une rue plus proche de Donetsk que Sergueïtch, dont le potager regardait de l'autre côté vers Sloviansk. En pente, il touchait à un champ qui descendait encore pour remonter ensuite en direction de Jdanivka. La ville elle-même n'était pas visible, elle semblait se cacher derrière la bosse. Mais l'armée ukrainienne qui s'était enterrée dans cette bosse à l'abri de casemates et de tranchées se faisait entendre de temps à autre. Et quand on ne l'entendait pas, Sergueïtch savait malgré tout qu'elle était là, tapis, à gauche de la plantation d'arbres que longeait un chemin de terre, fréquenté naguère par les tracteurs et les camions. L'armée s'y trouvait depuis 3 ans déjà. tout comme la pègre locale, renforcée de l'international militaire russe, qui, dans ses propres abris, buvait thé et vodka. Au-delà de la rue de Pachka, au-delà des jardins, au-delà des vestiges de la vieille abricoterie plantée à l'époque soviétique, au-delà des champs que la guerre avait privés de paysans, comme la prairie qui s'étendait entre le potager de Sergeïtch et Jdanivka. C'était calme à présent ici, depuis 2 semaines déjà. Pour le moment, on ne se tirait plus les uns sur les autres. Peut-être en avait-on assez ? Peut-être économisait-on obus et cartouches pour plus tard ? Ou peut-être tenait-on à ne pas déranger les 2 derniers habitants de Mala Starogradivka, chacun plus accroché à sa maison exploitation qu'un chien à son os favori. Les autres Mala Starogradiviens avaient voulu partir dès le début des combats, et ils étaient partis, parce qu'ils craignaient pour leur vie plus que pour leur bien, et qu'entre deux peurs, ils avaient choisi la plus forte. La guerre n'avait pas fait naître chez Sergeïtch de peur pour sa vie. Elle avait fait naître chez lui une certaine incompréhension, ainsi qu'une brusque indifférence à tout ce qui l'entourait. C'était comme s'il avait perdu tout sentiment, hormis un seul, celui de sa responsabilité. Et encore ce sentiment-là, capable de susciter de l'inquiétude à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il ne l'éprouvait qu'à l'égard de ses abeilles. Mais à présent, c'était pour elle la période d'hivernage. Les cloisons dans les ruches étaient épaisses. Par-dessus, entre cadres et couvercles refermés, une feuille de feutre. À l'extérieur, sur chaque côté, des plaques de fer. Même si les ruches étaient remisées dans la grange, un obus perdu pourrait toujours tomber de n'importe où, ou les éclats alors fendraient le métal. Mais peut-être n'aurait-il plus la force ensuite de percer les parois de bois et de semer la mort parmi les abeilles. Pachka arriva chez Sergeïtch à midi. Le maître des lieux venait de verser dans le poêle un 2e seau de charbon et de poser la bouilloire dessus. Il pensait boire son thé en solitaire, mais il dut y renoncer. Avant de faire entrer le visiteur important, il couvrit d'un balai de paille la hache de secours adossée au mur. Si ça se trouve, Pachka avait pour se défendre un pistolet ou une kalachnikov. Comment savoir ? Il verrait la hache dans le couloir et esquisserait le petit sourire agaçant qu'il affichait si bien lorsqu'il voulait montrer qu'il tenait son interlocuteur pour un imbécile. Or, Sergeïtch n'avait pour se défendre qu'une hache, rien d'autre. La nuit, il la rangeait sous son lit et son sommeil, pour cette raison, était tranquille et profond. Pas toujours, bien sûr. Sergeï Sergeïtch ouvrit la porte à Pachka et émit un raclement de gorge peu amical à la suite de la montagne de grief qu'en pensée, il venait de déverser sur son voisin de la rue Shevchenko. Grief qui semblait ne jamais devoir connaître de prescription. En un instant, il s'était rappelé les vacheries commises par l'autre, ses coups par en dessous, ses cafardages auprès des profs, ses refus de laisser copier. Dites, après 40 ans, il aurait pu avoir déjà pardonné et oublié tout ça. Eh bien, pardonner ça, oui. Mais comment oublier quand leur classe comptait 7 greluches et seulement 2 gamins, Pachka et lui ? Et qu'en conséquence, Sergeïtch n'avait jamais eu d'amis à l'école, mais seulement un ennemi, même si le mot « ennemi » avait quelque chose de trop sérieux et pesant. Au village, on aurait dit qu'il était « ch'tit », le terme convenait mieux. Un petit ennemi, en somme, dont personne n'avait peur. « Et salut Sergo !» lui lança Pachka d'un air un peu tendu, en même temps qu'il entrait dans la maison. « On a eu de l'électricité cette nuit », annonça-t-il en jaugeant du regard le balai de paille, tenté de s'en servir pour faire tomber la neige de ses bottines. Il empoigna le balai, et quand il vit la hache, une moue se dessina sur ses lèvres. « Tu mens !» lui dit Sergeïtch avec calme. « Si on avait eu de l'électricité, ça m'aurait réveillé. Je laisse la lumière partout allumée pour ne pas rater les moments où il y en a. Tu dormais à point fermé, faut croire. » Quand tu dors, même une bombe ne te réveillerait pas. Et puis, on n'en a eu qu'une demi-heure, tiens, regarde. » Il montra son téléphone portable à son hôte. « J'ai quand même eu le temps de le recharger un peu. Tu veux pas téléphoner à quelqu'un ?»« Je n'ai personne à appeler. »« Tu prendras du thé ?» demanda Sergeïtch sans un regard pour l'appareil. « Du thé ? Mais d'où il sort ?»« D'où il sort ? De chez les protestants. » « Non, sans blague !» s'exclama Pashka surpris. « Moi, il y a longtemps que je l'ai terminé. » Ils s'attablèrent, Pashka dos au poêle. Celui-ci, avec son tuyau de métal qui, tel une colonne, montait jusqu'au plafond, diffusait une chaleur douce. « Mais pourquoi est-ce si clair ?» grommela le visiteur en regardant dans la tasse. Puis, tout de suite, d'une voix plus amène, « T'aurais rien à bouffer ?» Les yeux de Sergeïtch se firent sévères. « Je n'ai pas droit à l'aide humanitaire toutes les nuits. »«
Moi non plus. »«
Alors qu'est-ce qu'on t'apporte ?»«
Mais rien. »
Sergeïtch émit un grognement dubitatif, trempa ses lèvres dans le thé. « Et quoi, cette nuit encore, personne n'est venu ? Tu as vu quelqu'un ?»«
Ouais, j'étais sortie du charbon, il commençait à faire froid. »«
Ah, mais ce sont les nôtres de là-bas, » dit Pashka. « Ils venaient en reconnaissance. »
« Et qu'est-ce qu'ils cherchaient ?»«
Ils vérifiaient s'il n'y avait pas des hucres dans le village. »«
C'est bien vrai ?»
Sergeïtch planta son regard dans les yeux fuyants de Pashka. Celui-ci, collé au mur, rendit aussitôt les armes. «
Non, c'est pas vrai. C'était des gars, je sais pas qui. Ils ont dit qu'ils venaient de Orlivka. Ils proposaient une Audi pour $300 sans les papiers. »«
Et alors tu l'as acheté ?» ricana Sergeïtch.
« Quoi, tu me prends pour un débile ?»
Si j'étais rentrée pour aller chercher l'argent, il m'aurait suivi et planté un couteau dans le dos. Tu crois que je ne sais pas comment ça se passe ?
Et pourquoi ils sont pas venus me voir, moi ?
Je leur ai dit que j'étais seule dans le village. Et puis, ça ne communique plus maintenant entre la Shevchenko et la Lénine. Il y a un trou d'obus à côté de chez les Mitkov. Faut un tank pour passer.
Sergeïtch restait silencieux. Mais il continuait de regarder Pashka, son visage chafouin qui aurait pu être celui d'un pickpocket vieillissant, bien des fois attrapé, tabassé et par conséquent craintif. Pashka, qui a 49 ans, en paraissait 10 de plus que Sergeïtch. À cause de son teint terreux peut-être, ou de ses joues usées, comme s'il s'était rasé toute sa vie avec une lame émoussée. Il le regardait et songeait que s'ils n'étaient pas restés les deux seuls habitants du village, jamais il ne lui aurait adressé de nouveau la parole. Ils auraient vécu ainsi parallèlement, chacun dans sa rue et chacun sa vie. Et jamais jusqu'à leur mort, ils n'auraient eu d'autres conversations s'il n'y avait eu la guerre.
« Il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'échange de tir ici, » soupira le visiteur. « Alors que vers Atna, tiens, avant, le canon ne tonnait que la nuit. Maintenant, on l'entend aussi dans la journée.
Et toi ?» Pashka pencha soudain la tête très légèrement en avant. « Si les nôtres te réclament quelque chose, tu le feras ?»«
Quels nôtres ?» demanda Sergeïtch d'un ton contrarié.
« Eh bien les nôtres, ceux de Donetsk. Pourquoi tu fais l'idiot ?»«
Mes nôtres sont dans la grange. Je n'en connais pas d'autres. Toi non plus, tu ne fais pas trop partie des nôtres pour moi. »«
T'arrêtes de faire ta mauvaise tête ? T'as pas assez dormi ou quoi ?»
Pashka grimaça de manière appuyée. « Ou bien tes abeilles ont congelé et tu défoules ta rogne sur moi, c'est ça ?»«
C'est toi que je vais congeler. »
À entendre la voix du maître de maison, ça n'était pas une menace en l'air. « Si tu dis quoi que ce soit contre mes abeilles, mais non, je les respecte, tes abeilles. Au contraire, je m'inquiète. Je comprends pas comment elles passent l'hiver. Elles ont pas froid dans la grange. Moi, je serais mort déjà gelé. »
Tant que la grange est intacte, ça va. Sergeïtch s'était radouci. Je veille. Chaque jour, je vérifie.
Et comment elles dorment dans les ruches ? Demanda Pashka.
Comme les gens ?
Bah oui, comme les gens. Chacune dans son petit lit.
Mais t'as pas de chauffage là-bas ou bien t'en as installé un ?
Elles n'en ont pas besoin. À l'intérieur, chez elles, il fait 37. Elles se réchauffent elles-mêmes.
La conversation, en abordant le thème des abeilles, avait pris un tour plus amical. Pashka comprit qu'il pouvait prendre congé sur cette note apaisée. Il leur serait même permis de se dire au revoir.
pas comme la fois précédente où Sergeïtch l'avait expédié avec des insultes. « Au fait, tu as réfléchi à ta retraite ?» demanda-t-il au moment de partir. « Et qu'est-ce qu'il y a à réfléchir ?» Sergeïtch haussa les épaules. « Quand la guerre sera finie, la factrice m'apportera 3 années de pension d'un coup. Voilà, j'aurai la belle vie. » Pashka eut un léger sourire. Il eut envie de titiller son hôte, mais ne pit pas mot. Il allait quitter les lieux quand son regard croisa à nouveau celui de Sergeïtch. « Écoute, pendant que j'ai encore de la batterie, » il lui tendit son portable, « tu pourrais peut-être appeler ta Vitalina ? Elle n'est pas à moi. Voilà déjà 6 ans qu'elle ne l'est plus. Non, je ne le ferai pas. Et ta fille ? Va-t'en, je te l'ai dit. Je n'ai personne à appeler. »
À voix haute, Meredith Ledez.
Qu'est-ce que ça peut être ? Se demandait à haute voix Sergeïtch. Il se tenait au bout du potager, devant le champ qui s'en allait en pente, telle une large langue blanche, pour remonter ensuite tout aussi régulièrement vers Zhdanivka. L'horizon enneigé dissimulait les retranchements de l'armée ukrainienne. Sergeïtch ne pouvait les distinguer d'où il était. C'était trop loin et sa vue laissait à désirer. À droite, la bande boisée protégeant du vent s'éloignait dans la même direction, en pente douce et ascendante, dense par endroits, par d'autres clairsemées. Certes, elle ne commençait à monter qu'à partir du pli de terrain. Avant d'amorcer une course vers Zhdanivka, les arbres étaient plantés en droite ligne au creux de la prairie, le long d'une route de terre qui à présent dormait sous la neige, car depuis le début des opérations militaires, personne ne l'avait empruntée. Avant le printemps 2014, elle permettait d'atteindre Svitle aussi bien que Kalinivka. Habituellement, c'était ses jambes qui poussaient Sergueï Sergeïtch ici, au bout du potager, et non ses pensées. Il vaguait souvent dans la cour, il inspectait sa propriété. Il allait tantôt dans la grange visiter ses abeilles, tantôt dans la remise voir sa tchetviorka verte, tantôt au tas de charbon qui diminuait chaque jour, mais donnait malgré tout l'assurance d'avoir encore du chauffage demain et après-demain. Parfois, ses jambes l'entraînaient dans le jardin, et il s'arrêtait alors près des pommiers et des abricotiers endormis par le froid. Mais parfois encore, bien que plus rarement, il se retrouvait tout au bout du potager, où l'immense croûte de neige craquait en se brisant sous le pied. où ses bottines ne s'enfonçaient jamais profondément, car le vent d'hiver balayait toujours la neige en bas, dans la plaine, vers le creux, si bien qu'il n'en restait guère là-haut chez lui. Il aurait été l'heure de rentrer, bientôt midi, mais cette tâche là-bas, dans la montée, du côté de Jdanivka et des retranchements ukrainiens, avait intrigué Sergeïtch et ne le laissait plus en paix. L'avant-veille, quand il s'était avancé au bout du potager, il n'y avait aucune tache sur la grande étendue blanche, juste la neige, au sein de laquelle, à force d'attention, on finissait par percevoir un bruit blanc. C'était là un silence qui vous prenait par l'âme avec des mains glacées et ne vous lâchait plus avant longtemps. Le silence, ici, bien sûr, était particulier. Les sons auxquels on était habitué au point de ne plus y prêter attention en faisaient aussi partie. Comme par exemple l'écho des tirs d'artillerie au loin. Tenez d'ailleurs, Sergeïtch se força à tendre l'oreille, quelque part à droite, à une quinzaine de kilomètres, ça pilonnait, et là-bas à gauche également, aurait-on dit, à moins que ce ne fût l'écho. Mais c'est peut-être quelqu'un, se demanda Sergeïtch à haute voix de nouveau, en cherchant à voir mieux. Un instant, l'air lui sembla devenu plus transparent. « Bon, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre » songea-t-il. « Si j'avais des jumelles, le mystère serait résolu, et je serais déjà à me réchauffer dans ma maison. Au fait, peut-être que Pashka en a des jumelles. » Ses jambes, cette fois-ci, l'entraînèrent à la suite de ses pensées chez Pashka. Il contourna le trou d'obus devant la maison des Mitkov en marchant sur le bord, gagna la rue Shevchenko et y suivit la trace de la voiture récemment passée, au sujet de laquelle Pashka pouvait avoir dit la vérité en fin de compte, mais pouvait aussi avoir menti, il n'était pas à sa près. « Tu aurais des jumelles ?» demanda-t-il sans même saluer son ennemi d'enfance qui lui ouvrait la porte. « Ouais, j'en ai, mais c'est pour quoi faire ?» Pashka semblait lui aussi décidé à ne pas dire bonjour. À quoi bon prononcer des paroles superflues ? « Là-bas, de mon côté, il y a une forme étendue dans la plaine, peut-être un cadavre. »« J'arrive. » Les yeux de Pashka s'étaient allumés d'une flamme interrogatrice. « Attends-moi. » Sergeïtch, tout en marchant, regarda le ciel. Il lui sembla que le soir tombait déjà, alors que même les journées d'hiver les plus courtes ne se terminent pas à 1h30 de l'après-midi. Puis il jeta un coup d'œil à la vieille paire de jumelles massives qui balait au bout d'une courroie de cuir brune sur la poitrine de Pashka, gonflée par sa pelisse en peau de mouton. Le devant du manteau, bien sûr, n'eût pas bombé autant si son propriétaire n'en avait replié les revers à l'intérieur. Le col, quant à lui, formait rempart autour de son maigre cou, le protégeant consciencieusement du vent glacé. Alors c'est où ? Pashka avait collé les jumelles à ses yeux dès qu'ils étaient parvenus au bout du potager. « Là-bas, regarde, droit devant et puis un peu à droite dans la montée, » dit Sergeïtch en pointant le doigt. « D'accord, d'accord, d'accord. Ça y est, je vois. Et qu'est-ce que c'est ?»« Le corps d'un soldat. Mais de quelle armée et où sont donc ces sardines ? Non, on voit rien. Il n'est pas dans une bonne position. »« Laisse-moi regarder, » dit Sergeïtch. Pashka ôta les jumelles de son cou et les lui tendit. « Tiens, l'apiculteur, t'as peut-être l'œil plus acéré. » Ce qui paraissait noir de loin, vu de plus près, se révélait de couleur verte. Le cadavre était couché sur le flanc droit, la nuque tournée vers Mala Starogradivka et par conséquent le visage vers les tranchées de l'armée ukrainienne. « Quoi que tu vois ?» demanda Pashka. « Ce que je vois ? Un mort, un soldat, étendu. À quel côté il appartient, j'en sais foutre rien. Ça peut être à l'un comme à l'autre. C'est clair. » Pashka opina du chef et le mouvement de sa tête, perdu à l'intérieur du haut col relevé de la pelisse, inspira un sourire à Sergeïtch. « Qu'est-ce que t'as ?» demanda Pashka, soupçonneux. « Ah ben, t'es comme une cloche à l'envers avec ton col. Ta tête est minuscule au milieu d'un tel luxe. « Elle est comme elle est, grogna Pashka. Et puis, c'est plus compliqué pour une balle de toucher une petite tête, alors qu'une grosse comme la tienne, à 1 kilomètre, on ne peut pas la rater. »
Ils retraversèrent ensemble la cour, jardin, potager jusqu'au portillon donnant sur la rue Lénine. En silence, sans se regarder. Là, Sergeïtch demanda à Pashka de lui laisser les jumelles pour 2 ou 3 jours. L'autre accepta, puis s'enfuit vers le passage Mitchourin sans se retourner. C'était Les abeilles grises, un roman d'Andrei Kourkov, traduit du russe Ukraine par Paul Lequen aux éditions Liana Levy. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.